Bon, alors on va lire. Oh, oui. Oui, peux-tu. Alors, lisons. En fait, peut-être si je peux avoir un deuxième lecteur ou lectrice, moi je peux lire la moitié, puis une autre personne qui a une bonne voix pourrait lire l'autre moitié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait prête ou prêt? Geneviève? Oh, c'est correct? Oui. Geneviève, voilà. Je te pointe du laser. Alors, je vais commencer, puis tu liras la deuxième diapo. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-moi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dehors et dedans. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. » Amen. Amen. On pourrait dire que c'est la partie la plus importante du sermon quand on lit le texte attentivement, parce qu'il faut que le sermon nous ramène au texte, n'est-ce pas? Qu'il soit en quelque part imprégné dans nos cœurs. Mais j'ai quand même un sermon aussi, il faut juste que je le trouve. Voilà, OK. Oui, alors, même aujourd'hui, il y a des images bibliques qui sont connues de presque tout le monde dans notre société, et l'image de Noé et de son arche remplie d'animaux entre dans cette catégorie d'images très connues. Et car plusieurs d'entre nous, depuis qu'on est tout petit, on connaît le folklore. Le folklore de Noé qui est coloré, qui est attendrissant, parfois comique et souvent qui est assez joyeux. Puis ça, c'est ironique. On en fait quelque chose de joyeux et de léger pour les enfants, vu l'histoire, quand on la lit. C'est le folklore d'un personnage sympathique à la longue barbe, Et puis on le voit scruter l'horizon sur le pont de son gros bateau. Puis il est entouré de girafes et d'éléphants, de singes et que sais-je encore. Hein, les jouets d'enfants, les décorations, tout ça nous est familier. Mais même les adultes continuent quand même à être en quelque part interpellés par cette histoire, parfois fascinés. Il y a quand même plusieurs encore aujourd'hui des documentaires qui cherchent à étudier le lien entre l'histoire biblique de l'Arche de Noé et puis la science, que ce soit l'histoire, l'archéologie, les sciences naturelles, l'histoire des religions. Ça attire beaucoup d'attention. Pour le moment, il n'y a pas unanimité des scientifiques sur ce qu'on peut conclure de toute cette recherche. Pour le peu que j'ai pu lire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on n'a pas encore trouvé de manière convaincante les vestiges de l'arc sur le mont Ararat, parce que le texte dit que le bateau y a échoué sur une montagne en Turquie, qui existe encore, qui est très connu, le mont Ararat. Et il y a des explorateurs qui ont eu cet espoir d'avoir trouvé le vestige. Mais, en tout cas, il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Par contre, la science nous dit qu'il y a eu autrefois plusieurs, en fait, grosses inondations locales importantes en Mésopotamie, qui pourrait être à l'origine de l'histoire, c'est-à-dire que les humains ont vécu ce drame et ils l'ont raconté. Puis il y a un autre fait qui est intéressant, c'est que beaucoup de peuples dans le monde entier ont dans leur folklore religieux l'histoire d'une inondation. Même des peuplades amérindiennes d'Amérique du Nord ont cette histoire et on se demande comment, pourquoi. Et pour plusieurs spécialistes, cela peut indiquer que dans les origines anciennes de l'humanité, quelque chose de gros est arrivé, quelque chose comme une énorme inondation, un énorme déluge, qui a été interprété comme une action des divinités. Et chaque peuple le raconte avec son approche religieuse particulière. Et donc, l'histoire varie beaucoup. Donc, ça, c'est intéressant quand même. Donc, il est possible que donc, le déluge qui a eu lieu, alors, mais après que les peuples se sont de plus en plus éparpillés, l'histoire est restée. L'histoire est restée dans la mémoire de tous les peuples. Mais on va voir, évidemment, que c'est la Bible, la parole inspirée de Dieu, qui nous ramène à l'interprétation, à l'histoire juste, et surtout au Dieu juste, le vrai Dieu qui est derrière cet événement. Nos contemporains ne sont pas indifférents non plus au sens spirituel de l'histoire de l'Arche de Noé. Il y a même eu des films hollywoodiens récents. Bon, il y en a un qui est plutôt comique, Evan le Tout-Puissant, en 2007, qui est une comédie, mais qui essaye quand même d'expliquer à sa manière le sens de l'histoire. Et un autre film plus récent, Noé, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, avec Russell Crowe, le grand acteur australien, qui est sorti en 2014. Alors, ce sont des films intéressants à regarder pour voir comment nos contemporains essayent de retirer quelque chose de l'histoire de Noé et retirer quelque chose aussi de par rapport à leur relation avec Dieu. Mais on constate qu'ils en prennent et ils en laissent par rapport à ce que la Bible raconte vraiment. Et en général, ils déforment l'image de Dieu telle que la Bible, elle, la parole inspirée de Dieu, nous présente Dieu. Donc, revenons maintenant à la Bible. Et donc, jusqu'à présent, nous avons vu les six premiers chapitres du livre de la Genèse dans notre série sur les origines. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on a appris? Faisons un bref retour, une révision, comme à l'école. Oh, l'ordi a gelé. Je vais essayer d'être plus rapide sur la gâchette. Je vous pose la question, qu'on a vu sur Dieu? Merci. Dans Genèse jusqu'à date, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, qui vous est resté dans la mémoire? N'importe qui. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Adam et Ève, la création, la chute. Oui. Oui. Oui, marcher avec Dieu. Dieu aime les humains qui marchent avec lui. On avait vu ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont revenir? J'ai une liste, là. Je vais remplir la diapo, mais je veux vous entendre avant. Oui. Oui, c'est le premier point. On le voit comme vraiment le Créateur, qui est évident pour nous, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans les autres religions. Et puis, pour beaucoup de nos contemporains, il n'y a pas vraiment de créateur parce qu'il n'y a pas vraiment de début. L'univers a toujours existé, selon de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais il y a un créateur, et c'est Dieu. Quelqu'un d'autre? Merci. Ça prend un professeur de céramique pour noter que Dieu a travaillé la terre, l'argile, pour former les humains. Et c'est vrai que nous sortons de la terre au niveau moléculaire et tout ça, et on y retourne. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et Jessica, voulais-tu? Oui? Wow, je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais c'est bon. Dieu a créé, il a recherché la beauté. Oui, c'est vrai. Ah oui, je me souviens, dans Genèse 1. Dieu regarda et c'était bon. Il déclare ça bon. Et il a mis en nous l'amour de la beauté. Oui, merci. Alors allons-y pour ma liste à moi qui est pas complète, mais qui est. Oui. Alors, Dieu a créé, mais il a mis les humains en tête de la création pour bâtir un monde de relations et de paix. Ensuite, le deuxième point, on a vu comment il réagit avec le mot le seul mot que j'ai trouvé, c'est intolérance. Vraiment une réaction très forte contre le mal commis par les humains sur la terre. Et il s'attriste aussi que le mal se progresse dans l'homme. Il y a comme une dégradation progressive qui attriste Dieu dans l'histoire. Pourtant, Dieu fait preuve de patience devant cette dégradation et il met en branle un plan pour ramener les hommes à lui. Et cela se manifeste au départ par. On voit qu'il fait des démarches envers certains humains, mais aussi il y a, parce qu'on avait vu, il y avait deux grâces, hein, la grâce générale. Il bénit les hommes malgré que eux courent dans la direction opposée. Il les bénit dans leur société, mais il y a aussi cette grâce particulière ou spéciale où il va toucher le cœur de certains individus pour les amener à lui. Et puis, finalement, on avait parlé des deux bras de Dieu, c'est-à-dire que dans cette démarche de Dieu de venir vers nous pour nous ramener à lui, parce que c'est la même chose aujourd'hui, il y a le bras plus difficile à accepter de la vérité et justice de Dieu. Dieu qui va nous dire notre péché, qui va nous dire non. Mais l'autre bras qui est le plus important, qui est le bras de la réconciliation, le bras de l'amour et du pardon. Et en fait, les deux sont toujours ensemble. Et disons, Dieu est amour au départ, Dieu est amour, mais dans son amour, il y a un non, il y a une vérité qui juge pour ensuite, si possible, si l'homme accepte, pour ensuite être réconcilié. Et le mot grâce apparaît dans notre texte aussi, que dans cette étreinte de Dieu, il y a cette grâce de Dieu, chen en hébreu, et Noé, lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pas parce qu'il n'était pas digne de jugement, c'est pas parce qu'il n'avait pas de péché, mais c'est parce que c'est Dieu qui est allé vers lui et il a répondu. Alors, c'est bon. Dans notre récit, oui, c'est un récit vraiment important pour nous, parce qu'on voit Noé vivre devant Dieu à un moment où la longue patience de Dieu envers le péché arrive vers une fin, OK? Donc ça, c'est important pour nous parce qu'on vit dans une période semblable aujourd'hui et c'est une triste réalité qu'il faut qu'on se rappelle les uns aux autres. Le jugement de Dieu vient et selon la Bible, c'est vraiment le jugement final qui doit être dans notre perspective. Il y a un jugement qui vient sur le péché de l'humanité. Et chaque être humain va passer devant la justice de Dieu. Et Noé est donc un modèle pour nous parce que lui, il vivait à une époque où il a su qu'un jugement s'en venait. Et ce que lui, il a fait, il a mis sa foi en action dans une période comme celle-là, alors que tous les autres ont couru dans la direction opposée. Alors, prenons exemple sur Noé. C'est mon invitation de ce matin. Et c'est l'invitation de la parole de Dieu. Prenons exemple sur Noé, qui, lui, a mis sa foi en action à l'approche du jugement. Je nous invite à vivre comme ça à notre époque et dans notre vie de tous les jours. Prendre exemple sur Noé, qui a mis sa foi en action à l'approche imminente du jugement. Et ce qu'on va faire, on va regarder trois aspects de la relation de Noé avec Dieu. On va focaliser un peu sur Noé, mais toujours avec l'idée de Dieu à côté de lui, avec cette idée que nous aussi, on peut vivre ce que Noé a vécu. On va oser croire cela, qu'on pourrait vivre comme Noé dans notre temps. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est ce que nous voulons avoir aussi. Alors, les trois aspects qu'on va regarder, premièrement, Noé a marché avec Dieu, c'est ce que notre sœur nous a rappelé tantôt. On l'a vu avec Enoch, Noé est l'autre modèle. Deuxièmement, Noé il a bâti l'arche, puis troisièmement, Noé il a marché à contre-courant. Noé, il a confronté sa génération. OK, donc, il a marché avec Dieu, il a bâti l'arche, il a confronté sa génération. Premièrement, Noé marchait avec Dieu. Oh, est-ce que j'ai le bon PowerPoint? OK, parfait, c'est bon. Noé marchait avec Dieu. Verset 29, dans le texte. Marcher avec Dieu, rappelons-le, c'est l'idée de prendre un pas à la fois à chaque jour. C'est accepter qu'on vit dans l'inconfort, parfois l'imprévu qui nous déçoit, mais que ça nous pousse à toujours faire confiance à Dieu et à marcher vers l'avant. On avait vu ça aussi dans le Nouveau Testament avec Martin il y a quelques semaines. Mais marcher avec Dieu, c'est aussi de croire que Dieu nous aime et a de bons plans pour nous. Il nous invite à marcher dans ses plans, même quand il paraît silencieux, même quand les choses vont mal. C'est de croire que, bon gré, mal gré, c'est Dieu qui marche avec nous. Ça, c'est deux expressions bibliques. Il y a des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, mais il y a Dieu qui dit, « Je marcherai avec vous. » Dieu marche avec toi. Puis si tu y crois, bien, tu vas marcher avec lui. Et c'est ce que Noé a fait. Moi, j'ai vu un exemple contemporain cette semaine. Et c'est ma femme Cheryl, qui m'a dit quelque chose. Et on revenait de la rencontre avec le médecin et on a eu un diagnostic décevant parce qu'on espérait que ça soit la porte à une solution médicale assez rapide, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et Cheryl, dans l'auto, elle m'a dit, « Marc, je veux la guérison, je demande la guérison, mais si je peux continuer à entendre plus clairement la voix de Dieu dans mon cœur, comme c'est le cas depuis un mois, à travers mes temps de prière, depuis que je suis malade, bien, je suis prête à attendre pour la guérison puis me rapprocher davantage de Dieu. » Marcher avec Dieu, ça peut vouloir dire, « J'ai besoin d'un changement dans ma santé tout de suite, Seigneur. » Mais des fois, c'est aussi, « J'accepte. » Mais je ne perds pas la foi. Je veux chercher à entendre ta voix dans cette épreuve que je ne comprends pas. En revanche, un pas dans la mauvaise direction, c'est lorsqu'on vit une épreuve, une déception dans la vie avec Dieu, et qu'on se complaît après dans une vision basse de Dieu. Une vision rapetissée de notre Sauveur. On va peut-être accepter le mensonge, le demi-mensonge, que Dieu marche avec nous, mais pas vraiment. Donc, là, il est temps que je prenne en main mon propre avenir, parce que je pensais que Dieu marchait avec moi, mais pas vraiment. Et c'est là que ça peut être dangereux pour ta marche avec Dieu. Non, marcher avec Dieu, c'est de refuser ce compromis de la foi et de se mettre à l'écoute joyeuse et optimiste. Écoute de Dieu en premier. Ce qui est beau de voir chez Noé, c'est que il va faire des gaffes dans sa vie. On va le voir au chapitre 9. Mais par contre, quand Dieu lui dit quelque chose, il est heureux de le faire, il le fait. Et c'est ce que Dieu célèbre chez Moïse. Parce que deux fois, l'histoire nous dit, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Ça fait plaisir à Dieu. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends plaisir à comprendre la parole de Dieu pour la mettre en pratique? Est-ce que tu aimes découvrir les choses claires dans la parole de Dieu pour ensuite avoir la joie de les mettre en pratique, même si c'est difficile? Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que Dieu il aime ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de domaines où ce n'est pas clair et où Dieu nous demande, avec le Saint-Esprit, de trouver le chemin à suivre et il va nous guider. Mais nous vivons dans une période où on aime ça être dans le flou. Et le monde... Oh oui. Voilà. Point d'application. Prends-tu plaisir à écouter la parole de Dieu pour obéir à ses commandements? On vit dans un monde qui glorifie la mise sur la tablette, la mise au rencard des commandements clairs de Dieu pour les remplacer par le flou du désir personnel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit résister à ça. Et oui, c'est vrai qu'il y a du flou, mais il y a beaucoup de clair. Il y a beaucoup de paroles claires. Et soyons comme Noé, prenons plaisir à mettre en pratique. Amen! Deuxième aspect de la relation de Dieu avec Noé, mais Noé, il a bâti l'arche. Il a vraiment fait une œuvre énorme pour Dieu. Depuis le début, Dieu regarde notre planète et il se dit, « Qui sont les personnes d'exception qui vont travailler avec moi pour faire avancer mon plan dans le monde? Qui sont ces personnes qui vont travailler avec moi pour faire avancer mon bon plan? » Dieu te pose la question à toi aujourd'hui. Dieu avait vu en Noé un cœur comme ça, un cœur qui voulait travailler avec lui, un cœur prêt à construire quelque chose de divin, quelque chose à contre-courant, en plein dans une période de péché. Dans 1 Pierre 3:20, le Nouveau Testament nous dit que ceux qui se joignent à l'Église de Dieu, l'Église comme l'Oasis, se joignent à une arche de Dieu pour la fin des temps. La vraie, là, l'arche la plus importante. C'est vrai que l'arche de Noé était importante, mais l'Église de Dieu, c'est l'arche de Dieu pour la fin des temps. Et il faut que les humains s'y accrochent pour éviter les flammes du jugement dernier. Parce que le jour vient où Jésus-Christ va regarder chaque humain dans les yeux puis dire, on va passer en revue ta vie. Là, on va regarder, on va faire un retour en arrière. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux venir à ce moment avec, habillé en Jésus-Christ, habillé dans les habits que Jésus-Christ me donne et qui disent que je suis pardonné et donc que mes péchés vont être absous et que même si j'ai péché dans ma vie, je serai sauvé. Et c'est ça, l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est aussi l'Église où on proclame Jésus-Christ puis on invite des nouveaux passagers. À l'automne, quelques-uns d'entre nous, on est allés écouter un missionnaire qui s'appelle Adam. Je ne parle pas d'Adam comme le premier homme, mais Adam, j'oublie son nom de famille, il vient de l'Ontario. On va l'appeler Adam de l'Ontario. Il a grandi dans une église de l'Alliance près de Toronto. Et lui, suite à l'appel de Dieu, il a abandonné le projet d'une vie confortable au Canada pour aller, en fait, faire ses études postsecondaires quelque part au milieu de l'Asie centrale, dans un pays où il n'y a vraiment quasiment aucun chrétien. Il est allé assez seul aussi, mais avec un soutien de prière. Et quelle histoire qu'il nous a racontée de son expérience là-bas. Et il nous a parlé de la soif de ses camarades de classe à qui il parlait de l'Évangile et qui lui disait, J'ai entendu qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'Évangile, mais si tu ne me le dis pas, et je ne vais jamais l'entendre. Alors, et puis, c'était dans une situation où il y avait quelqu'un qui leur disait, mais il faut qu'on aille en classe. Non, il faut qu'Adam m'explique l'Évangile, parce que c'est la seule chance de ma vie de l'entendre. Et il y avait plusieurs histoires comme ça. Adam a ensuite posé la question à nous qui étions dans l'assistance. Ça, c'était en novembre, je crois, en novembre, en 2017. On était dans une église à Laval et il avait les larmes aux yeux et une voix frémissante. Puis il nous demandait, après tout ce que Jésus a fait pour nous, comment ne pas aller vers les peuples non atteints, vers les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Comment ne pas aller pour leur donner, si ce n'est une chance, d'entendre la bonne nouvelle et être sauvés? Comment ne pas aller? Puis pour lui, c'était évident. Il a demandé à nos prières, puis il a aussi demandé, il a lancé l'appel que d'autres se joignent à lui, quittent le Québec et le Canada pour aller avec lui là où il était allé. Voyez-vous, Adam, c'est un Noé de notre temps. Puis ma question pour moi, pour toi ce matin, es-tu prête à être une Noé, à être un Noé de notre temps? Commençons par l'oasis. Faut qu'on la bâtisse, l'oasis, pour qu'il y ait plus de place pour plus d'animaux. Mais je dis pas que vous êtes des animaux. Mais comprenez ce que je veux dire, plus de passagers. Et qui va les inviter, les passagers, si ce n'est toi et moi? Engage-toi. Peut-être que Dieu va t'appeler à quelque chose de plus gros, à quitter l'Oasis, quitter Montréal pour une mission ailleurs. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pas le temps pour le confort. C'est pas le temps pour le confort. On a surnommé notre église l'église inconfortable. Ben c'est bien parce que c'est pas le temps pour le confort. C'est pas le temps de sommeiller dans les plaisirs d'un monde qui développe de plus en plus de confort. Mais notre monde va être peut-être très bientôt transformé par la destruction du feu. Es-tu prêt à être un Noé, à être une Noé? Puis mon dernier, sa génération. Il a vécu à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager dans une rivière à contre-courant ou à ramer dans un canot à contre-courant. Je me souviens, avec Lauriane et Jessica, on ramait à contre-courant dans le lac Saint-Louis, qui est en fait le fleuve Saint-Laurent. Il appelle ça un lac, mais c'est trompeur, c'est un fleuve. Puis il y a beaucoup de courant, puis on est allé trop loin, puis il fallait revenir à contre-courant. Puis c'était pas joyeux dans le bateau. On ramait fort, puis on n'avançait pas vite. Oui, bien, Noé, il a vraiment ramé à contre-courant. Le texte dit qu'il a vécu intègre, intègre, plein, comme ce que je crois en Dieu, c'est ce que je démontre. Dans une société, dans un environnement qui n'était pas intègre, qui était même très violent et qui était, semble-t-il, très anti-Dieu. Il a été intègre par sa manière de vivre. J'imagine quelqu'un qui n'usait pas de violence dans un contexte où c'était requis d'être violent quand c'était à ton avantage, quand c'était à l'avantage de ta famille. Mais le Nouveau Testament a deux autres passages qui parlent de Noé, en fait trois, mais Hébreux 11, verset 7. Et 2 Pierre 2, verset 5, donc Hébreux 11, verset 7, et 2 Pierre 2, verset 5, et qui dit que Noé prêchait la justice. Il était un prédicateur de justice. Donc, ça veut dire que par ses paroles aussi, il confrontait son monde et sûrement, ça heurtait et ça choquait. Parce qu'il y a le nom de Dieu avec le oui de Dieu. Il faut qu'on en parle du jugement qui vient. Hier, nous étions chez des amis qui sont, à qui on veut parler de l'Évangile et moi, je venais juste d'écrire ça. J'ai dit, je vais prêcher ça à l'Oasis demain. Il faut que je le fasse d'abord. Mais ce n'est pas facile de parler du jugement qui vient. Et j'ai cafouillé, mais on en a quand même parlé. Et ça dérange. Ça dérange encore que, avec la crise écologique, il y a beaucoup de gens, je dis, qui disent, il y a un jugement qui vient. Parce qu'ils voient les inondations qui s'en viennent, les tempêtes et tout. Ils commencent à se poser des questions. Et c'est une porte pour en parler. Mais réveiller les gens dans leur sommeil. Jésus a parlé de Noé. Il a dit que Noé, il a construit l'arche, il a prêché. Personne n'a écouté. Il l'a fait pareil. Personne s'est repenti. Il l'a fait pareil. Alors, ma question pour nous ce matin, es-tu disposé, même cette semaine, à dire à quelqu'un qu'il a besoin de la croix de Jésus pour être pardonné, pour être sauvé du jugement? Amen. Oui, parce que ton jugement, tu peux soit l'attendre, mais le jour du jugement, là, hein, si tu attends, quelqu'un, c'était, en fait, c'est Francine qui m'a dit ça cette semaine, ça va être laid, et ça ne va pas être beau ce jour-là, même si Dieu va être glorifié, mais pour ceux qui vont être jugés, qui vont attendre trop tard, ça va être laid. Mais tu peux aussi transporter ton jugement dans le passé, à la croix de Christ, par son corps brisé pour nous. Si tu crois en lui, il prend ton jugement sur lui, il te donne sa justice. Et à ce moment-là, tu es déjà jugé, tu es déjà mort, tu es déjà ressuscité, tu vis déjà un pied dans le royaume de Dieu. Et donc, tu n'as plus peur du jugement de Dieu. Amen! On est d'accord? Oui. Mais il faut inviter d'autres. Il faut inviter d'autres à comprendre ça. Puis il faut inviter d'autres à commencer à comprendre. Parce que, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, il y a des gens qui ont balayé du revers de la main mes histoires de Jésus, il y a la première fois que je leur en ai parlé. Mais peut-être quelques années plus tard, ils sont un peu plus ouverts. Parce que cette parole difficile a fait son chemin. On ne sait jamais en qui est-ce que la semence va commencer à germer. Même si la réaction première est négative. Puis dans ce sens-là, Noé, c'est un modèle pour nous. Il a été jusqu'au bout dans son témoignage. Alors, pour résumer, Noé est un exemple pour toi et pour moi parce qu'il a marché avec Dieu dans une période de rébellion. Deuxièmement, il a ramé à contre-courant pour bâtir l'arche. On a parlé de l'Église. On a parlé de la mission. Puis troisièmement, il a confronté sa génération dans sa manière d'être dans le monde. Ce sont des preuves de sa foi, puis nous aussi, on est appelés à demander à Dieu de nous aider, à prouver notre foi. Il va nous donner la puissance de le faire. Mettre sa foi en Dieu à l'approche du jugement. Amen. Amen. Oui. Noé, il a compris. Moi, je suis pécheur comme les autres. Je mériterais d'être détruit comme les autres, mais Dieu m'a parlé, puis je sais que je ne serai pas détruit. Il veut transformer le monde et il veut m'utiliser pour ça. Je vais lui faire confiance. Je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas lui tourner le dos. Je vais croire. Je vais agir en fonction de cette foi. Puis, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à l'Oasis, mais pas juste l'Oasis. L'Église, elle n'est pas juste à l'Oasis. L'Église, elle est dans le monde entier. C'est merveilleux. Et Dieu t'appelle à construire l'Église avec lui, puis avec les autres. Et je pense que quand tu es appelé au service, pense oui avant de penser non. Quand on te demande, aimerais-tu peut-être aider avec telle chose? Pense oui avant de penser non. On a beaucoup de travail à faire. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets à cause de vos limitations de santé. Vous êtes inquiets aussi à cause de votre situation professionnelle ou d'immigration. Et vous vous dites avec sagesse, il ne faut pas que j'en prenne trop. Faut pas que j'en prenne trop parce qu'il y a des choses non réglées dans ma vie. Mais pensez, qu'est-ce que ça ferait si j'acceptais ce service? Ce service est... Et puis, est-ce que j'oserais demander à Dieu, Dieu, aide-moi à considérer ce service. Aide-moi à considérer ce service, mais d'une manière qui va augmenter mes capacités dans l'autre domaine, pour lequel je m'inquiète. Pensons oui avant de penser non. Peut-être que le Seigneur va vous dire, non, il faut que tu attendes. Mais ne dites pas non tout de suite. Priez là-dessus. Priez là-dessus. On a beaucoup de travail à faire. Et il y a toutes sortes de services. Il y en a qui sont exigeants, il y en a qui le sont moins. Et ça peut être le Seigneur lui-même qui va vous souffler un service qui est peut-être d'inviter un voisin à l'Oasis ou d'inviter un voisin simplement pour un repas avec toi. Mais à la base, moi, je vais vous inviter à dire oui à Dieu ce matin. Oui, j'accepte Jésus. Je monte dans l'arche que Dieu me donne en Jésus-Christ. Une manière de dire oui, c'est de prendre part au repas, le pain et la coupe. C'est une manière de dire, j'accepte de rentrer dans l'arche que tu as pourvue. J'accepte aussi d'être au service de ton nom pour inviter d'autres. Amen.